Musique du monde. Laurence Alloa. Tegui Mfa Traoré. Musique du monde sur RFI.
Nous avons la la la, deux Indiens dans le studio aujourd'hui. L'un est originaire de New Delhi, il viendra nous présenter son groupe Peter Cat Recording Company. L'autre est journaliste musical au site Les Jours et il s'est glissé dans le costume du grand encapuchonné qui descend les cheminées en rappel pour vous inonder de cadeaux. Maman, il y a un gros monsieur sur les bûches. C'est Sofian Fanon, le Père Noël. Et c'est avec cinq morceaux qu'il va remplir vos grosses chaussettes de laine qui grattent. La chance.
Papai Noel me deu um bom presente de Natal. Você embrulhadinha num papel monumental. Papai presente de Natal, você embrulhadinha num papel monumental. Quem ganha boneca é menina, eu sei. Eu sou menino e também ganhei. Não foi uma bola, nem sequer um cavalinho, mas foi você, amor, que veio então pra ser o meu benzinho. Plim, 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 uma cabeça de papel.
Sofian, avec sa hotte et son petit bonnet rouge, c'est l'esprit de Nawel. Et vous avez démarré cette programmation avec Jean Gilberto. Vous nous faites un esprit de Noël un peu soft. On se moque pas de Noël, mais en même temps, on la joue sur un répertoire musical qui n'est pas forcément non plus Tino Rossi.
Oui, voilà. Non, parce que Tino Rossi, c'est insupportable. La musique de Noël, c'est devenu un genre en soi. C'est très américain comme genre. On ne peut pas allumer une radio aux États-Unis sans entendre une chanson de Noël. Au mieux Maria Carey, au pire des choses vraiment gluantes et sirupeuses. Mais c'est devenu un genre. Il y a tout un tas de musiques autour du monde qui se sont amusés, qui ont essayé de s'approprier un peu le genre en le caricaturant ou en faisant quelque chose de très différent. Voilà, ça m'intéressait d'aller fouiller un petit peu dans ce qui s'est fait d'intéressant et puis d'un petit peu intrigant et puis d'un petit peu amusant ou d'un peu rigolo aussi autour des chansons de Noël. Et ce morceau de Joe Gilberto est un peu comme ça hors sol. Alors, c'est un vieux morceau en fait de Joe Gilberto. On est un peu au début de la bossa encore. C'est 3 ans avant son disque avec Stan Getz. C'est un album de 61. Il y a quand même Antonio Carlos Jobim aux arrangements, hein, tout le monde est là. Et il y a ce petit morceau planqué à la fin du disque, un peu anodin comme ça, mais qui est un vrai morceau de Noël de Bossa Nova et en même temps un vrai morceau quand on écoute un petit peu les paroles. Enfin, moi je ne comprends pas le portugais, mais je suis allé un petit peu lire et c'est un morceau terriblement machiste en fait, très mignon comme ça. Et en fait, João Gilberto raconte qu'il a reçu une grande poupée en présent, très bien emballée et que c'était une femme. Et il dit oui, je sais, avoir une poupée, c'est un truc de fille normalement, mais bon, moi je suis un garçon, j'ai pas eu un ballon, j'ai pas eu un cheval, j'ai eu une femme. Voilà, c'est très classe hein, comme petite chanson de Noël.
Vous êtes sur un siège éjectable, monsieur Fanon. L'eau, ça, c'est un groupe de rock alternatif qui est né au début des années 90. Alors, j'aime bien parce qu'ils sont originaires de Duluth, ça me fait penser à Lovecraft. Mais enfin, eux, c'est Noël aussi.
Oui, c'est l'eau qui est, moi, un de mes groupes fétiches parce que tout simplement, ils m'accompagnent depuis toujours. Ils ont sorti un très, 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 très bon disque cette année, au passage. C'est vraiment un des beaux disques de l'année 2018. Et en 1999, sorti de nulle part. Ils sortent ce disque de Noël qui est pas vraiment vendu dans les magasins au début, qui est plutôt pour les fans. Il est vendu à la sortie des concerts, etc. Après, il sera édité proprement et disponible dans les magasins. Et donc, Low est un groupe de, on les a appelés slowcore, c'est-à-dire ils font une sorte de rock très lent, très posé, avec des voix très aériennes. Ils chantent très très bien, souvent à deux voix. Alan Sparrow, Mimi Parker, qui sont mari et femme dans la vraie vie, et ils chantent comme ça à deux voix. C'est toujours très beau. Et là, c'est comme un peu des cantiques de Noël, mais très rock indé américain des années 90. Dans l'ensemble du disque, il y a des tapis de guitare très noirs, un peu grunge. C'est jamais très violent, Low, hein. C'est une violence très contenue et en même temps c'est très mélancolique. Également, c'est un groupe qui a plusieurs niveaux de lecture, parce que c'est aussi des gens qui sont mormons, qui sont très croyants, et ça traverse leur musique un peu en filigrane. C'est pas très mis en avant. C'est plutôt leur façon de se présenter sur scène. C'est très contenu, c'est très sobre, etc. C'est des mormons un peu punk, hein, quand même. Faut bien le dire. Mais dans ce disque, il y a comme ça des pointes de religiosité qui sont assez absentes de leur musique, parce qu'ils retiennent ça, c'est leur vie, c'est pas leur musique. Et dans ce disque de Noël, il y a des pointes de religiosité qui n'apparaissent finalement que dans ce disque presque, mais pas dans le morceau que je vous ai mis, qui s'appelle Just Like Christmas, qui est un vieux classique.
Discussion avec Sofian Fanon pendant que vous, chers auditeurs, 35 millions, c'est quand même beaucoup, écoutiez cette chanson. En fait, la chanteuse de Low pourrait très bien être suédoise, être dans le groupe ABBA, au niveau de la voix, hein, au niveau de la musique.
Oui, c'est cette voix parfaite, extrêmement claire, elle prononce tout extrêmement bien.
Alors là, ça va être le moment embarrassant de l'émission.
Encore un.
Encore un, bien sûr. Vous nous proposez Darlene Love. Alors, c'est pas elle qui est embarrassante, mais c'est la personne qui a produit l'album, c'est Phil Spector, qui est encore et toujours en prison.
Oui, Phil Spector, tu vas rester en prison a priori pendant assez longtemps.
Ah oui, hein. C'est pas très bien de tuer les gens aussi.
Non, ne tuez pas de gens. Avant de devenir ce personnage complètement détestable, ou peut-être en même temps, parce que Phil Spector, en fait, c'est vraiment le producteur omnipotent des années 60, voire même 70, le producteur tout puissant, en fait. Avant Phil Spector et George Martin, dans un autre genre, mais George Martin est quand même un gentleman beaucoup plus poli, les gens qui enregistraient la musique en studio, c'était des techniciens, en fait. On les voyait comme des techniciens. Limite, ils avaient des blues, etc. C'était des techniciens du son. Et à partir de ces deux personnages-là, ils deviennent des producteurs, ils deviennent des créateurs et ils ont des créatures, du coup. Et Phil Spector avait des créatures qui étaient des chanteuses, des compositeurs, des arrangeurs, etc. Et il prenait une voix d'un côté, un texte de l'autre, une musique de l'autre. Il mettait tout ça en studio. Ça marchait pas, mais c'était une usine complètement, complètement dingue. Et lui, derrière, a quand même inventé une nouvelle façon de faire du son en inventant ce qui s'appelle le wall of sound. C'est-à-dire, on n'arrivait pas à l'époque à faire un son vraiment puissant. Et lui, il a réussi en dédoublant, en démultipliant toutes les sources sonores. C'est-à-dire que la basse est démultipliée, les violons sont démultipliés, tout est démultiplié, les voix sont empilées sur trois couches, etc. Et ça donne une amplitude dingue à la musique qu'il a produite. Et notamment dans cet album, dont le morceau qu'on va entendre, qui s'appelle Christmas Baby Please Come Home de Darlene Love, qui est issu d'un album qui s'appelle A Christmas Gift for You from Phil Spector. Enfin, c'est le nom qu'on lui a redonné. Il est sorti sous un autre nom au début. Sorti en 63, c'est le premier album, donc 10-12 morceaux, que Phil Spector produit dans sa globalité, alors qu'auparavant, c'était les 45 tours. Donc, c'est un album important et c'est un album qui va changer beaucoup de choses, changer le son, changer la façon dont on fait de la musique, et qui est un des albums de Noël les plus connus, qui, pour la petite histoire, n'a pas du tout marché à l'époque, en 1963, quand il est sorti, parce qu'il est sorti pile le jour de l'assassinat de JFK à Dallas.
Plein dans l'esprit de Noël, Noël sur RFI dans les musiques du monde avec la programmation de Sophie Anfanen. Après le Christmas Baby Please Come Home de Darlene Love produit par Phil Spector, on va arriver aux Beach Boys avec Merry Christmas Baby. Alors les Beach Boys, à une certaine époque, je parle des années 70-80, le rock était assez électrique, où il y a beaucoup de punkry, en tout cas en France, à Paris, partout. Bref, dire qu'on aimait les Beach Boys, c'était quand même assez humiliant. J'en ai fait des frais, je suis ravie aujourd'hui que vous me rachetiez une conduite et qu'on puisse écouter enfin ce groupe.
Et c'est bien qu'aujourd'hui on puisse dire oui, les Beach Boys c'est bien, et oui, les Ramones c'est bien aussi. Enfin, c'est
ah, mais ça, il y a 30 ans, on passait pour une truffe.
Exactement, hein. C'est un des grands progrès des 15 dernières années avec la musique qui s'est accélérée, où on a effacé les géographies, etc. Et où toute l'histoire des musiques s'est un peu entremêlée. Et on a pu cette confrontation entre l'underground et le mainstream, le succès, le non-succès, etc. Tout est mélangé. Et les Beach Boys, c'est un super exemple de ça, parce que dans les Beach Boys, Buzz, il y a des morceaux, ils ont quand même écrit Kokomo, c'est quand même un morceau un peu insupportable, mais en même temps, ils ont écrit des merveilles, des albums complètement dingues, Pet Sound, le premier, et ce disque de Noël, qui est, c'est pour ça qu'on l'a mis après le morceau de Darlene Love, produit par Phil Spector, parce que ce disque est la réponse des Beach Boys à Phil Spector. Brian Wilson, compositeur, membre des Beach Boys, jouait du piano sur l'un des morceaux de l'album de Noël de Phil Spector, et on lui a dit, non, mais écoute Brian, tu joues pas bien, rentre chez toi, on va faire sans toi. Donc il est un petit peu fâché. Et c'est à l'époque où les Beach Boys quittent un peu leur image de garçons bien habillés, qui font du surf, un peu le boys band californien, ensoleillé, bronzé, etc., pour devenir un groupe de pop beaucoup plus ambitieux. Ce disque de Noël est une sorte de premier pas dans l'ambition sonore. C'est vraiment la production copiée sur Phil Spector, c'est hyper riche, et c'est ça qui va les amener après, quelques années plus tard, à Pet Sound, et à ce... cette nouvelle musique aussi qu'ils vont réinventer aussi avec les Beatles, etc., une nouvelle façon de faire de la pop qui en même temps parle directement parce que c'est des musiques très immédiates, des mélodies très fortes et une profondeur sonore, une richesse créative qui fait qu'on peut toujours écouter ces disques aujourd'hui en se baignant dedans. My baby, she told me she don't wanna hold me and kiss my lips anymore. She's gonna leave me and she don't believe me that I'll be true now. Well, if she don't love me, not thinking of me, but why'd she do it this time of year? She knows that I'll miss her, I wanna kiss her, it just...
Les Beach Boys, ça fait partie de ces gens dont tout le monde connaît les paroles. Je vous disais à l'instant, je crois que c'était l'année dernière ou l'année avant, il y avait un concert des Beach Boys au Festival International de Jazz de Montréal, et de voir 600 ou 700 personnes debout chanter tous les titres, alors que les titres ont 50 ans, quoi. C'est vraiment proprement hallucinant. Ça fait partie de l'histoire de la musique américaine, le songbook, comme on dit. Alors, là où vous nous faites une vraie surprise de Noël, je sais pas si je dois bien le prendre, je crois que ce sera la première et la dernière fois qu'on entend cet artiste dans cette émission, mais Sofiane Fanon va argumenter, c'est Kanye West. Alors Kanye West, il faut que je dise quand même, je suis allée sur internet et je sais que c'est assez odieux comme procédé, j'ai pris quelques phrases sorties de leur contexte. Et alors il a dit, je n'écoute pas de rap, mon appartement est trop beau pour écouter du rap, d'accord. J'ai fait cette chanson parce que je suis Dieu et je ne pense pas qu'il y ait plus d'explications. Humilité, ma plus grande souffrance dans la vie est que je ne pourrais jamais me regarder jouer en live. Bon, alors maintenant vous allez me défendre le titre Christmas in Harlem, sorti en 2010 par Kanye West.
Est-ce qu'il faut défendre le titre ou est-ce qu'il faut défendre l'artiste? C'est toujours une grande question.
Il est un peu cintré quand même.
Mais il est cintré. Oui, c'est pathologique si c'est quelqu'un qui est malade en fait, hein, tout voilà. Simplement. C'est quelqu'un qui est malade, qui fait partie de ces artistes qui sont malades. Alors que ça nourrisse son art ou que ça le nourrisse pas, c'est encore une vaste question. Mais on est dans une société du spectacle qui regarde les artistes malades et qui s'en repaît aussi.
C'est vrai.
C'est pas la première fois que des chaînes de télévision, des hommes politiques, parce que Kanye West est aussi utilisé par des hommes politiques, des chaînes de télévision.
Sa femme est une star de la télé.
Voilà, enfin, tout ça est très complexe. Hein. C'est des gens qui vivent dans un monde qui n'a aucun sens. Et lui est malade. Il est bipolaire, il est, etc. Enfin, il le dit d'ailleurs. Hein. Il en parle dans ses chansons, dans son dernier disque, parle de ça. Il dit c'est génial, je déteste être moi, quoi. C'est vraiment, c'est ça. Et à un moment, il explose en vol régulièrement, et où il ne fait qu'exploser en vol. Et c'est voilà. Après, ça, du coup, ça. Est-ce que ça annule sa musique ? C'est une vaste question. Gainsbourg était alcoolique au dernier degré. On le recevait sur les plateaux de télévision où il faisait n'importe quoi et on faisait exprès de l'inviter pour ça. Est-ce que ça a annulé sa musique sur la fin de sa carrière, etc. Enfin voilà, c'est tout un vrai sujet. Enfin, je trouve que la santé mentale des musiciens, c'est un vrai sujet dont on parle pas assez. En Angleterre, en Grande-Bretagne, ils sont beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'accompagnement. En France, je pense que c'est quelque chose une question qu'on peut encore poser beaucoup aux structures, aux maisons de disques, etc. qui n'encadrent pas forcément la santé mentale de leurs artistes. Voilà. En tout cas, pour revenir sur la musique, je cherchais, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme chanson de Noël côté rap, côté hip-hop ? J'avais souvenir du Christmas Rapping de Curtis Blow, vieux morceau des 70. Il y a surtout le Christmas in Hollis de Run DMC, qui est le morceau de Noël rap réussi, parce qu'il y a aussi un morceau de Snoop Dogg qui s'appelle Santa Claus Goes Straight to the Ghetto, qui était sorti sur un disque pas terrible dans les années 90 de son label Death Row Records, mais vraiment le disque est un petit peu raté. Et Kanye West répond un petit peu au Christmas in Hollis de Run DMC. Donc Run DMC à l'époque raconte Noël dans leur quartier de Hollis et dans le Queens, quartier assez pauvre, etc. Il raconte comment c'est Noël. Et Kanye West, lui, fait Christmas in Harlem. Mais alors, comme c'est Kanye West, en fait, le morceau raconte c'est un morceau sur les courses de Noël. Je vais faire mes courses, il fait un peu froid et je sais pas trop quoi acheter. Il y a un autre couplet d'un autre rappeur qui est invité qui s'appelle Sci High the Prince, qui lui dit moi j'ai pas besoin de traîneau parce que j'ai une Porsche pour mettre mes cadeaux. Voilà, on est vraiment dans le rap bling bling des années 2010.
Ça vous plaît?
Je sais pas si ça me plaît, ça m'intéresse. Après c'est toujours difficile.
Sofian vient à vélo, donc quand il parle de Porsche, forcément j'ai un sourire carnassier.
La position du journaliste est toujours un peu ambiguë. Je peux être très critique et on peut être très critique envers ce morceau. On peut aussi s'y intéresser en tant qu'œuvre qui a existé et qu'il faut aussi interroger. Et il est pas si mal ce morceau finalement. Il arrive à mêler du rap, il y a un côté un peu soul langoureuse. On sent quand même un petit peu les flocons. Je trouve qu'il a quand même réussi à faire quelque chose. Et c'est sorti au même moment que, enfin, trois semaines après, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, qui est quand même un disque qui a beaucoup marqué et qui était beaucoup plus dense et beaucoup plus complexe musicalement. Mais vraiment, je pense que Kanye West, dans 20 ou 30 ans, on relira ses albums parce que c'est des albums qui ont été très importants musicalement. Et on s'interrogera sur sa personnalité en même temps. Il y aura beaucoup de livres à écrire dessus.
Il est amoureux, c'est beau, c'est Noël. Christmas in Holland, right after autumn falls, soaking it all in. Then we gon' hit the mall, even though we ain't ballin'. Feel like we bought it all. The mistletoe's right here. Come give a Christmas.
Baby, Christmas to all and all a good night. Huh, now we all living the good life. Yeah, though it's 40 below the wind chill, and we wiping snow up off the windshield. It's still a wonderful night to be alive, baby. And I'm so happy I'm with my baby. And we a little late with the Christmas gifts, rushing for the mall. Don't trip, you know I drive crazy. The streets lit up, it feel like Christmas officially. Told her that you the star at the top of my Christmas tree. My only question is, where my presents? She said she got a gift for me that ain't for the kids to see. Well, I like the way you think, mommy. Now pull some more eggnog in your drink, mommy. You been a bad girl, you sent her three kisses. Gave her the hot chocolate, she said it's delicious.
Christmas in Harlem. Yeah.
Voilà, c'était Kanye West avec Teyana Taylor et See the Prince, Christmas in Harlem. Alors, cette programmation était signée Sofian Fanon, un peu esprit de Noël. Sofian, je suppose que vous avez écrit votre lettre au Père Noël. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez cette année et que vous n'aurez encore pas ?
Des disques. Moi, je veux toujours des disques.
Et beaucoup d'argent.
Plutôt des disques. Moi, je crois que les disques m'intéressent plus que l'argent.
D'accord. Moi, c'est le contraire. Au revoir. Non, on continue. On part en Inde. Je vous expliquerai. C'est un peu compliqué. Question, qui connaît Peter Cat Recording Company ? Réponse, pas grand monde, mais ce secret commence à fuiter. C'est dans la chaotique New Delhi en Inde qu'est née cette formation atypique entre croonerie végasienne Sinatra et Sarasvati Groovy à en tordre son sitar. La tête pensante s'appelle Suryakant Soni, il sera traduit par Damien Besançon.
Practice, so baby, I know, just let me dream. Look, darling, that's just we heard it, this town and all the crazy, oh baby, I know, just let me dream.
Sous les yeux un disque qui s'appelle Peter Cat Recording Company. Ce qui est intéressant, c'est que ce disque s'annonce comme étant une anthologie 2010-2016. Seulement, on connaît absolument pas le groupe. Alors, on peut imaginer des tas de choses. Soit que c'est un vieux groupe qui existe depuis longtemps, dont on n'a jamais eu connaissance, auquel cas on est un très très mauvais journaliste. Ou alors, ce serait quelqu'un de très malin qui a un groupe depuis pas très très longtemps, puis qui a décidé de se présenter de cette manière. Bonjour, Monsieur Suryakant.
Bonjour. The band has been around since 2011.
Le groupe existe depuis 2011. On avait l'habitude d'enregistrer nous-mêmes, de produire nous-mêmes nos disques et d'enregistrer, de sortir un disque tous les ans, à peu près. Et donc un jour, un Français qui s'appelle Alexandre Rabia, qui s'occupe d'un label qui s'appelle Panache, a découvert notre musique via une vidéo qu'on avait enregistrée pour l'un de nos titres, peut-être I'm Home. L'idée de départ, l'idée du label était de ressortir certains de nos disques dans un format qui n'existait pas encore, à savoir le vinyle, en tout cas pour nous. Et nous, on n'était pas sûr de vouloir ressortir nos anciens disques. On s'est dit pourquoi pas plutôt faire de la nouvelle musique et puis éventuellement faire d'abord une sorte de compilation de nos premières années. Donc voilà, on a pris ce qu'on considérait comme étant le meilleur et on a enregistré un nouveau disque.
Suryakant, vous êtes originaire de New Delhi. Quand on écoute votre musique, on est perdu. On ne sait pas du tout à quoi on a affaire. Si c'est de la musique concrète, on entend des bruits qui viennent de la vie réelle. Il y a de la musique aussi. Ça se voit un peu étrange de crooner. Évidemment, la comparaison avec Frank Sinatra va très vite. Et puis ça fait Hollywood. Tandis que vous avez un pays de cinéma, c'est Bollywood. Et justement, est-ce que dans votre travail, vous faites plus référence, j'allais dire, à tous ces chanteurs de comédie musicale? Je voulais savoir si c'est pas le fond de commerce, mais le départ de votre travail.
I studied film, so you're right. The way I approached a lot of things is through cinema.
De fait, j'ai étudié le cinéma, donc c'est vrai que j'appréhende la musique et la plupart des choses que je fais dans la vie de ce point de vue-là et avec cette culture-là.
But I think a chief reason for the way the music is because I come.
Il dit qu'en fait, l'une des raisons pour laquelle ça sonne peut-être comme une sorte de melting pot, ou en tout cas que ça sonne pas exactement comme ce qu'on peut imaginer sortir d'un studio en Inde, c'est que lui et la plupart des membres du groupe ont plusieurs cultures et ont baigné dans plusieurs cultures musicales notamment et cinématographiques, et qu'ils ne sont pas seulement indiens, dit-il, et qu'il y a effectivement des influences américaines, japonaises, la musique africaine, donc ça explique en partie cet internationalisme.
Pour pousser un peu plus loin, vous êtes plus Frank Sinatra ou Mohamed Rafi ?
J'aimerais être plus Sam Cooke que ces deux-là, mais je fais avec ce que j'ai.
Vous avez étudié le cinéma et autant vous dire que ça se voit dans les vidéos. J'en ai vu trois. J'ai vu Love Demons. Ça commence dans le désert. Ça finit dans un cinéma avec des filles habillées en rouge qui dansent comme des folles. J'ai vu Copulation aussi, avec deux chiens qui flirtent sur la plage. Deux chiens mâles, je précise. Et puis I'm Home. Alors là, c'est une espèce de dérive sur la muraille de Chine. Qu'est-ce que vous voulez exprimer à travers vos clips, parce qu'ils sont assez délirants?
Firstly, I think a lot of our videos are very philosophical.
Déjà, je dirais que, enfin, en tout cas, je crois que nos vidéos ont une portée philosophique. Enfin, elles ne sont pas forcément à prendre au pied de la lettre. C'est peut-être pas la philosophie la plus heureuse et la plus positive, mais en tout cas, il y a quelque chose derrière qu'on essaye de mettre en image. Et pour ce qui est de ce clip tourné à la muraille de Chine, il s'avère que j'étais en Chine avec, pour un autre projet électronique qui s'appelle Lefafa. J'étais avec mon manager et on avait un peu abusé de la boisson et on est parti se balader vers la muraille de Chine qui s'avéra ce jour-là être à peu près vide de ses touristes habituels. On avait un iPhone, on a filmé, il m'a filmé divagant, titubant, et puis on a terminé les images à New Delhi. On voit ma femme à la fin de cette vidéo, et en gros c'est moi étant mort et revenant la chercher.
Landing on Earth and just sort of coming to take it away.
Le clip de Copulation qui met deux chiens en scène, c'est la première fois que je vois filmer des animaux avec autant de douceur et de sensualité.
That's good. There's stray dogs in India. I like that. You know, they're very friendly.
J'aime beaucoup les chiens errants à Delhi. Ils sont très amicaux.
You can get close. You can get intimate. You can.
And this, la plupart de nos vidéos viennent un peu du hasard et du fait qu'on est à tel endroit à tel moment. Et là, en l'occurrence, avec ces deux chiens, on était à Goa. C'était encore avec ma femme en vacances à Goa, tout simplement. Et on assistait à la cour de ces deux chiens, dont un vit dans un restaurant et l'autre passait devant en permanence. Et ma femme m'a fait remarquer qu'effectivement, il y avait quelque chose de très romantique dans ces allées et venues. Et du coup, je me suis mis à les filmer.
And seeing a moment and realizing it can be something.
Just me and you parked by the beach, a copulating in, a copulating in. You know me, you know I can never justify. That all I have is it. So bring me that bison and bring me that wine and show me that license that lets you decide. It's all I ever mind. It's all I ever mind. We are old eyes. Man, I would stay if I can throw them away. Throw them away. It's all I ever know. It's all.
to be the copulating me. The copulating me.
Peter Cat Recording Company, c'est notre invité dans cette édition des Musiques du Monde sur RFI. C'est un groupe qui vient de New Delhi et qui est représenté par son leader qui s'appelle Surya Kanchoni. Alors, les vidéos sont importantes dans votre travail. Il y a beaucoup de plans qui nous font deviner que vous pourriez finir un jour par faire un long métrage. Est-ce que c'est à l'étude? Est-ce que c'est un projet?
Yes, hopefully. I actually wanted to do it.
J'aimerais beaucoup, j'ai des idées. Et de fait, je suis passé du cinéma à la musique pour des raisons économiques, parce que c'est beaucoup moins cher de faire de la musique que de faire des films. Mais j'ai quand même le projet, j'ai quelques idées.
Votre musique, quand on l'écoute comme ça, sans les images, il y a certains moments, je ne sais pas si ça vous a frappé, vous pourriez très bien faire la bande-son d'un film de Terrence Malick, parce que vous parlez de vos vidéos qui sont très philosophiques. Ça fait Tree of Life. Je ne sais pas si ce cinéaste vous a tapé dans l'œil ou c'est un.
Terrence Malick? Not so much, but
il a plutôt bien pris le compliment, mais il dit que c'est pas son cinéaste préféré et que s'il avait à choisir des réalisateurs non indiens comme influence, il dirait plus volontiers Kusulicha ou David Lynch. Et en tout cas, il a beaucoup d'affection pour le cinéma de l'Europe de l'Est.
Est-ce que vous avez déjà travaillé pour le cinéma? Est-ce que votre musique a déjà accompagné des courts-métrages, théâtre, des chorégraphies ou quelque chose? Enfin, quelque chose en dehors purement de la musique pour la musique?
One or two songs have been used in Bollywood. Really badly. But not
sa musique a été utilisée régulièrement dans des petits courts-métrages, des choses pour lesquelles il donne les droits volontiers, et puis quelquefois, visiblement de mauvaise manière, par Bollywood. Après, moi, j'ajoute qu'il y a le cinéma français en train de s'intéresser beaucoup à sa musique, parce que là, ça commence à faire des petits aussi. Ça devrait arriver.
Vous êtes nombreux à New Delhi à proposer ce type de musique quand même assez cintré, et surtout chanter en anglais.
Well, it's. Non. But there is a small group of people, there's us and.
Pour lui, il n'y a pas vraiment de scène, en tout cas autour des musiques qui l'intéressent, lui. Il dit qu'en revanche, il y a quand même un groupe un peu élargi de personnes qui font de la musique qu'il qualifie d'honnête. Et il dit que dans Peter Cat Recording, il y a quand même des groupes à l'intérieur des groupes et il y a plusieurs projets. On est peut-être une quinzaine ou une vingtaine à créer quelque chose de l'ordre de la petite scène.
Est-ce qu'il y a un public pour ce type de musique?
Il dit qu'il a un public, que le groupe et les groupes à l'intérieur de ce collectif, on va dire, a un public de plus en plus nombreux, beaucoup d'étudiants en art ou en philosophie ou en cinéma. Il insiste quand même sur le fait que l'anglais n'est pas la première langue en Inde et qu'il y a quand même un plafond de verre pour faire de la musique populaire en Inde. C'est pas forcément la langue la plus
indiquée. Your audience can only grow so much.
Mais la musique populaire, c'est toujours la musique des films qui est diffusée à la radio, à la télévision, ou il y a d'autres courants musicaux?
There are three types of main music. And there's Bollywood. There's other.
Il y a effectivement la musique de Bollywood qui est toujours très, voilà, très importante, et Punjabi, et puis après une sorte de musique globale, de pop urbaine globale, avec des influences de trap et de EDM qu'on trouve en Inde, comme on trouve au Brésil, comme on trouve aux États-Unis, comme on trouve en France, qui est quand même assez.
The sort of weird rap EDM thing.
Soya Khan Shoni, la dernière fois qu'on a entendu parler de musique indienne ici en France, c'était lors de la disparition d'Annapurna Devi, c'était en octobre dernier. Une immense musicienne du style hindoustani qui est la musique classique du nord de l'Inde, et c'est aussi l'ancienne épouse du sitar Hiro Ravi Shankar. Et je me demandais combien pèse cet héritage sur vos épaules, et je me rends bien compte que la question est absurde parce que ça revient carrément à demander à un jeune chanteur ou à un rappeur occidental « Alors, le chant grégorien, ça vous inspire ?» Il y a un gros décalage.
Actually, yeah, it's like that.
De fait, oui, il y a quand même un décalage, et c'est vrai que c'est à la fois quelque chose dont un héritage dont j'ai conscience, et en même temps, c'est effectivement comme demander à un jeune rappeur français ou chanteur français s'il écoute les chants grégoriens. Mais je pense quand même que c'est une musique qu'on apprend à découvrir plus tard, et que j'apprends, enfin plus vieux en tout cas, et que j'apprends en ce moment un peu à décortiquer. Il y a des concepts dans la musique classique indienne, notamment, que je trouve passionnants, qui sont très intéressants et dont je m'inspire, et ça commence à faire partie de mon environnement pour créer.
Vous voulez dire que bientôt nous aurons un raga Surya Kant?
Pandit, non.
Non, visiblement non.
Non, Pandit Surya Kant, sorry.
Vous êtes à Paris en ce moment, vous en profitez pour faire du shopping, visiter ou travailler?
I work all the time, but luckily this time my wife is here, so we're eating some nice food.
Non, je travaille beaucoup, mais là, j'ai aussi... Ma femme est ici, elle m'emmène. Enfin, en tout cas, on va ensemble manger dans des bons restaurants.
But no shopping, I hate shopping.
Je déteste le shopping.
Mais j'avais cru comprendre que vous étiez en train de travailler sur un autre album, avec quelques enregistrements faits ici dans la capitale française.
The new album also, you know, it has a lot of songs which are really old songs also.
C'est le nouvel album qui est quand même aussi composé de certains morceaux un peu plus anciens. Ça va dans la continuité de nos travaux précédents. C'est mieux produit parce qu'on a appris à mieux travailler, à mieux produire d'abord chez nous avant même de venir ici. Ça explore encore, je pense, cette idée du temps et de la musique. Portrait of a Time, c'était le titre de l'anthologie. Il a parlé du futurisme. Alors je pense qu'il y a quelque chose qu'on pourrait traduire comme une sorte de rétro-futurisme, c'est effectivement quelque chose qu'on sent dans la musique. Et pour ce qui est de l'enregistrement des voix, en l'occurrence à Paris, c'est une expérience assez géniale, avec la rencontre d'un ingénieur du son qui a un studio formidable qui s'appelle Robin Leduc, et qui s'est un peu arraché les cheveux parce qu'évidemment le groupe avait l'habitude, et lui, Surya Kant, a l'habitude d'enregistrer tout seul dans des conditions qui ne sont pas forcément professionnelles, et il pense avoir trouvé l'équilibre entre ce matériel extraordinaire, cette technique et d'un coup à leur portée, et ce dont ils ont vraiment besoin pour faire cette musique-là. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre qui s'est trouvé.
It's funny because he has all this incredible equipment, and we've used very simple equipment, and so that we're trying to find a balance between what we need and what we don't need and stuff like that.
Vos parents, qu'est-ce qu'ils font comme métier? Pour avoir un enfant qui a fait des études de cinéma, qui fait de la musique aujourd'hui, c'est un cadre familial particulier?
Mon père était dans la navire marchande et ma mère était femme au foyer, donc il n'y a pas de connexion directe entre leurs activités et le fait que je fasse de la musique et que j'étudie le cinéma. C'est essentiellement ma mère qui m'a élevé, parce que mon père est mort quand j'avais 13 ans, et c'est d'ailleurs elle qui m'a encouragé, en tout cas qui m'a accompagné dans la musique, et elle me faisait chanter une sorte de gospel indien avec un harmonium, une espèce de chanson un peu hypnotique.
Les bhajans.
Les bhajans, merci. C'est comme ça que c'est venu, mais il n'y a pas, c'est pas une famille d'artistes ou de musiciens.
If you ask me, my family's influence.
I leave her bed and heart a home.
Alicante, vous évoquiez vos vidéos qui ont une portée philosophique. Pour le reste du monde, et en particulier pour les Occidentaux, l'Inde est perçue comme un haut lieu de la spiritualité grâce aux gourous, Ama, Sri Aurobindo, les swamis, les ashrams, le yoga, la méditation, les moines errants, Varanasi, anciennement Benares, et puis toutes les déesses et tous les dieux du panthéon hindou. Après, évidemment, quand on se rend sur place, la descente est sévère. Hein, y en a qui s'en remettent pas. En fait, l'Inde est un trip, un vrai.
L'Inde elle-même et le fait de vivre en Inde est en soi une philosophie, parce que c'est un pays où effectivement c'est très physique, très palpable, et que ce soit la pauvreté, les conditions de vie de beaucoup d'Indiens et la façon dont on parlait tout à l'heure des chiens errants, etc. Il y a quelque chose qui a un impact, c'est sûr, sur la création, sur la mienne. C'est plutôt l'Inde elle-même plus que finalement les religions et la spiritualité telle qu'on
l'entend.
Alors, quelle est votre vision de New Delhi?
You know, it's sad because actually historically it's an incredible city.
C'est terrible, j'ai l'impression que c'est une ville qui était au bord de l'effondrement et je ne vois pas beaucoup de solutions pour en sortir. C'est extrêmement pollué, évidemment, c'est extrêmement très dense, il y a beaucoup de gens et c'est terrible parce qu'évidemment il y a une culture extraordinaire, il y a une poésie et un art ancestral qui est vraiment qui est assez génial, et il y a encore vraiment un esprit très particulier dans le vieux Delhi, quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs, mais je suis pas très optimiste sur la suite.
As overall as a city, it's definitely on the verge of collapse.
Surya Kanchoni, oui, j'ai compris, collapsé. Donc, pour finir l'entretien, j'ai choisi le titre Clone on the 22nd Floor. En gros, ça veut dire le clown du 22e étage. Avec votre permission, est-ce qu'on peut avoir une explication de texte, d'ailleurs une explication de tout?
Ah, it's actually, I think, the first song I ever wrote.
C'est peut-être la première chanson que j'ai écrite.
Vous pensiez à quoi?
Yeah, and man, I think I wrote this when I lived in San Francisco.
J'ai écrit cette chanson quand j'habitais à San Francisco. J'essayais de, enfin, je flirtais avec cette.
I think it's sexual frustration.
Cette jeune fille. Juive, et je crois que c'est une chanson sur la frustration sexuelle. Il y avait en tout cas beaucoup d'alcool au moment de l'écriture de cette chanson.
Yeah, there's no real idea. She goes, oh, there she goes, the way she moves, the way she moves. I hope she knows, I hope she knows, I hope she'll choose just me, not you.
Toutes les musiques que vous avez écoutées durant cette émission sont sur la page d'accueil de l'émission Musique du Monde, sur le site musique.rfi.fr. Il y a également la page Facebook Musique du Monde RFI. On est aussi sur Twitter à RFI Musique Monde et sur Instagram à MDM RFI. Snapchat, ah non, ça suffit. Hein. On a une vie en dehors d'Internet. J'ai des chats quand même. Pas vous? Allez, à demain.
Oh, there she goes.